La dernière fois que c'est arrivé, Linda voulait encore l'aider. Elle l'a laissé pour le taureau, fin qu'elle a donné son chapeau. Qu'on soit dans le champ ou dans la brume, qu'on aime les blondes, les roses, les brunes. Le drame ultime d'envie d'un homme, c'est de perdre son casque de cow-boy. Qu'on soit dans le champ ou dans la brume, qu'on aime les blondes, les roses, les brunes. Le drame ultime d'envie d'un homme, c'est de perdre son casque de cow-boy. De
part
son casse de cowboy.
Allô, ici Louis-Jean du groupe Carquois et vous écoutez la seule radio communautaire francophone en Colombie-Britannique, CILSFM.
Ici Marie-Hélène Bourret. J'anime en collaboration avec une trentaine de chroniqueurs l'émission Parole d'aîné, qui est sur les ondes de CILSFM 107,9 au cadran, le samedi matin dès 9h et en rediffusion le lundi à compter de 17h et le jeudi entre 13 et 14h. Vous pouvez aussi nous écouter directement en ligne à cilsfm.ca. Je suis toujours à la recherche de sujets pour mes chroniques. Donc, si vous avez des suggestions de rubriques, ou si vous connaissez des gens qui aimeraient partager avec nos auditeurs leurs passe-temps et leurs histoires, écrivez-moi à mh.bourret@cilsfm.ca. Au plaisir de vous lire.
Victoria, embarquement immédiat dans cette édition des 21 et 22 avril de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne au cours de la prochaine heure qui débute sur le champ avec les revues de presse internationales et nationales. Vous écoutez Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon, voici votre revue de presse internationale pour les 21 et 22 avril. Un policier est tué, deux autres sont blessés sur les Champs-Élysées à Paris. C'est une nouvelle qui a fait le tour de la planète. Je vous lis quelques lignes du compte-rendu de Mediapart sur le portail mediapart.fr. Un policier a été tué, deux autres grièvement blessés par un assaillant sur les Champs-Élysées à Paris jeudi soir. Le président français François Hollande annonce une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. L'État islamique a rapidement revendiqué l'attentat dans la soirée. Toujours à propos de cet attentat, dans le journal Le Monde, attaque des Champs-Élysées, Karim Shurfi était signalé pour radicalisation depuis 2016. Selon les informations du journal Le Monde, c'est le 9 mars que l'auteur de l'attentat est entré dans les radars de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Une enquête par le parquet antiterroriste a été ouverte. Selon ces mêmes informations, Karim Shurfi, l'assaillant abattu sur les Champs-Élysées jeudi soir, a commencé à être repéré pour sa radicalisation à partir de décembre 2016. À cette époque, il a été signalé par une personne pour sa volonté de tuer des policiers afin de venger les musulmans tués en Syrie. L'auteur de l'attentat a aussi été dénoncé au cours de la même période car il avait indiqué qu'il recherchait des armes et voulait entrer en contact avec un individu qui s'avérait un combattant de l'organisation État islamique dans la zone irako-syrienne. Une enquête judiciaire a été ouverte à ce moment. Elle est restée toutefois une enquête de droit commun. Ces signalements ont entraîné plus tard, à partir de janvier, l'inscription de Karim Shurfi au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Cette radicalisation très récente, avec une montée en puissance fulgurante, a en tout cas échappé aux services, écrit le journal Le Monde, malgré le renforcement considérable de leurs moyens ces cinq dernières années. Un papier portant un message manuscrit prenant la défense de l'État islamique a été retrouvé près du corps de l'auteur de l'attentat, selon des informations de l'agence France-Presse. On va poursuivre cette revue de presse internationale, cette fois en se penchant sur une nouvelle qui nous parvient du Moyen-Orient. C'est publié dans le portail Mediapart. Israël-Palestine, l'heure de Marwan Barghouti, se demande ce journal indépendant. Marwan Barghouti, qui est un militant palestinien très populaire au sein de la population civile palestinienne. Alors, l'auteur de cet article, René Bachmann, écrit « En prenant la tête d'une grève de la faim qui touche déjà près d'un détenu palestinien sur quatre, le dirigeant le plus populaire de Palestine lance depuis sa prison un double défi au gouvernement israélien, tenté par un refus de négocier lourd de menaces, et à Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, dont l'immobilisme est de plus en plus critiqué. Près de 1500 prisonniers palestiniens sur les 6500 qui sont détenus en Israël actuellement ont entamé lundi 17 avril, journée des prisonniers en Palestine, une grève de la faim pour réclamer des conditions de détention dignes. Préparé depuis des mois sous le nom de Liberté et Dignité, ce mouvement de protestation a été lancé par le plus célèbre des prisonniers palestiniens, Marwan Barghouti. Celui-ci purge depuis 15 ans 5 peines de prison à vie pour des attentats attribués à la Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa, groupe armé clandestin du Fatah. Des attentats qui auraient eu lieu au cours de la deuxième intifada entre 2000 et 2005. Ces accusations, il les a réfutées, il a refusé de se défendre, estimant que la cour israélienne qui le jugeait était illégitime. Dirigeant historique du Fatah en Cisjordanie, excellent connaisseur d'Israël et autrefois interlocuteur apprécié des journalistes et des politiciens de la gauche israélienne, Marwan Barghouti est aujourd'hui, à 57 ans, le responsable politique le plus populaire parmi les Palestiniens. Figure patriotique exemplaire, souvent comparée à Jerry Adams ou encore à Nelson Mandela, il reste depuis des années, malgré sa détention, le favori désigné par les sondages d'opinion pour succéder à Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne et surtout pour présider un éventuel État de Palestine indépendant. Donc voilà, c'est un article signé par René Bachmann dans les colonnes du journal indépendant Mediapart.fr. On se déplace du côté du journal Le Monde qui nous rapporte une nouvelle de Turquie. Les Européens sont embarrassés par la victoire de l'hyper-président Erdogan. Partenaire de la Turquie dans la lutte contre l'organisation État islamique ou dans la gestion de la crise migratoire, l'Union européenne a réagi avec prudence aux résultats du référendum de dimanche. La victoire serrée et contestée du président Erdogan au référendum turc de dimanche 16 avril, avec 51,4% des voix, embarrasse au plus haut point les responsables européens. Ils ne peuvent pas faire comme si la réforme constitutionnelle, qui renforce considérablement les pouvoirs du chef d'État, ne posait aucun problème. En mars, évoquant ce référendum, le Conseil de l'Europe avait souligné un risque de dérive vers un régime autocratique. L'Europe ne peut pas non plus ignorer les accusations d'irrégularité autour de ces référendums. Cet article du journal Le Monde rappelle que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, présents sur place lors du référendum d'il y a quelques jours, ont considéré, dans un rapport préliminaire, que celui-ci s'était déroulé en deçà des normes internationales démocratiques. Dans le journal Ouest-France, toujours à propos de la Turquie, l'opposition engage un autre recours contre les résultats du référendum. Après la victoire du oui au référendum renforçant les pouvoirs du président turc Erdogan, le Parti républicain a indiqué ce vendredi qu'il avait déposé un nouveau recours. Le principal parti de l'opposition turque, le Parti républicain du peuple, le CHP, un parti laïque, a annoncé vendredi qu'il comptait déposer un recours contre la décision de la commission électorale de comptabiliser, lors du dépouillement du référendum de dimanche dernier, les bulletins qui n'avaient pas été tamponnés par des scrutateurs. Nous déposons un recours devant le Conseil d'État aujourd'hui réclamant l'annulation de la décision de la Commission de prendre en compte les bulletins non tamponnés, a déclaré le vice-président du CHP, Bülent Tekzan. La Commission électorale turque a déjà rejeté mercredi les recours de 3 partis d'opposition, dont le CHP, contre les résultats du référendum constitutionnel. Ce scrutin a validé de justesse, avec 51,4% de oui, la réforme constitutionnelle qui était voulu par le président Erdogan pour étendre ses pouvoirs, notamment en supprimant le poste de premier ministre et en mettant fin au régime parlementaire. Toujours dans Ouest-France, des intellectuels et artistes américains appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Des intellectuels et des artistes américains ont affiché leur soutien à Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle, en lançant une pétition en ligne. Des intellectuels et artistes américains, dont le philosophe Noam Chomsky ou le comédien Mark Ruffalo, ont lancé mercredi une pétition pour appeler les électeurs français à s'unir derrière le candidat de gauche le mieux placé dans les sondages, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Cette pétition en anglais sur la plateforme moveon.org, titrée « France, s'il te plaît, ne réédite pas la tragédie de Clinton versus Trump », cette pétition donc est portée également par le comédien Danny Glover, ou encore par la dramaturge Eve Ensler, qui était l'auteur notamment des monologues du vagin. On a aussi appris cette semaine que l'actrice Pamela Anderson, native de l'île de Vancouver d'ailleurs, se joignait à ce mouvement. L'ex-star de Alerte à Malibu, ou si vous préférez Baywatch, qui soutient également le lanceur d'alerte Julian Assange, a affiché son soutien au candidat Jean-Luc Mélenchon sur son site internet avec le titre suivant « Mr. Mélenchon, s'il vous plaît ». Donc voilà cette nouvelle paraissant dans le portail de Ouest-France. Des intellectuels et artistes américains appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Toujours à propos d'élections en Europe, le chef du Labour prépare une campagne résolument de gauche. C'est dans le fil de l'agence Reuters. Le chef de l'opposition travailliste en Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn, mènera sa campagne en vue des élections législatives anticipées du 8 juin sur une plateforme résolument de gauche. Il s'agira de faire entendre la voix du peuple face aux élites, ce qu'il appelle le confortable cartel qui domine la classe politique au Royaume-Uni actuellement. Le Labour, ou le parti travailliste, comme vous voulez, veut taxer les riches et s'attaquer au pouvoir, à ses yeux, excessif des grandes entreprises. « Notre devoir devant l'histoire est de faire en sorte que le peuple gagne », a déclaré Jeremy Corbyn. « Nous n'acceptons pas le fait qu'il soit naturel que la Grande-Bretagne se trouve gouvernée par une élite, par la City et par des évadés fiscaux », a-t-il dit. Cette dépêche de Reuters rappelle que la première ministre, Theresa May, a, de manière inattendue, il y a quelques jours, demandé la tenue d'un scrutin électoral 3 ans plus tôt que prévu afin de conforter sa solide majorité parlementaire et disposer d'un mandat encore plus solide avant d'entamer les délicates négociations du Brexit avec l'Union européenne. Sur le portail de Radio-Canada à présent, un article sur le Pakistan. Englué dans les Panama Papers, le premier ministre pakistanais évite le pire pour l'instant. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif est loin d'en avoir terminé avec le scandale des Panama Papers, qui a révélé que des membres de sa famille ont pu s'acheter de luxueux appartements à Londres grâce à des sociétés extraterritoriales gérées par le cabinet Mossack Fonseca, cabinet qui était au cœur du scandale des Panama Papers. Dans une décision rendue jeudi, la Cour suprême du Pakistan a conclu qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour justifier le renvoi du chef du gouvernement de ses fonctions à ce stade-ci. La Cour suprême a cependant ordonné un complément d'enquête pour corruption. Aux États-Unis maintenant, Goldman Sachs, la mauvaise passe du banquier de Trump. C'est une nouvelle qui paraît dans le journal Le Monde sous la plume du journaliste Philippe Escande. Les grandes banques américaines ont fêté leurs bons résultats il y a quelques jours, à l'exception du roi de la finance spéculative Goldman Sachs, dont les anciens membres sont pourtant très présents dans la Maison-Blanche de Donald Trump. La firme Goldman Sachs avait pourtant tout prévu, écrit le journaliste Philippe Escande. Comme à son habitude depuis deux décennies, Goldman Sachs a su placer ses hommes au cœur du pouvoir, sitôt élu le président américain Donald Trump, qui avait construit sa campagne pourtant sur la détestation du public sur Wall Street. Donald Trump a donc ouvert ses portes, en dépit de ses déclarations antérieures, il a ouvert ses portes aux banquiers de Goldman Sachs. Il a installé auprès de lui une armada d'anciens banquiers maison, à commencer par Steve Mnuchin, le nouveau secrétaire au Trésor, qui a passé 17 ans au sein de Goldman Sachs, et aussi, bien sûr, Gary Cohn, président de Goldman Sachs auparavant. Il a été promu par Donald Trump, premier conseiller économique du nouveau pouvoir. Mais pour l'instant, continue cet article du Monde, force est de constater que la vista de ses dirigeants, des dirigeants de Goldman Sachs, donc, pourtant supposés bien informés, semble défaillante. La déconvenue est d'autant plus cinglante qu'elle contraste avec le reste de la profession. Les résultats trimestriels des grandes banques américaines sont excellents, à l'exception de ceux de Goldman Sachs. Nous n'avons pas bien navigué dans les marchés, s'est excusé Martin Chavez, le nouveau directeur financier de Goldman Sachs. Donc, vous trouvez cet article sur le Bankster Goldman Sachs dans les colonnes du journal Le Monde. Agence Reuters, Volkswagen condamnée à une mise à l'épreuve de 3 ans aux États-Unis. Un juge fédéral de Détroit a condamné vendredi Volkswagen à une mise à l'épreuve de 3 ans dans le cadre du scandale des émissions polluantes des véhicules diesel du constructeur automobile allemand. Cette mise à l'épreuve s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu en janvier au civil et au pénal. Avec le gouvernement américain, entente par laquelle Volkswagen a accepté de verser 4,3 milliards de dollars après avoir admis la présence sur ses véhicules diesel aux États-Unis d'un logiciel de manipulation de leurs émissions polluantes. Et pour terminer cette revue de presse internationale, quelques articles supplémentaires recommandés pour vous. Tout d'abord, dans le portail Bastamag, un titre qui en dit long, « De Babylone à Wall Street, la dette, une technique d'exploitation et d'oppression des classes populaires ». Donc, un dossier sur la dette et sur l'histoire des dettes, de la relation entre le pouvoir, entre les gouvernants et les gouvernés. Sur le site du portail, sur le site du International Business Times, MIT expert claims latest chemical weapons attack in Syria was staged. Un expert du MIT, le prestigieux institut du Massachusetts, a déclaré que la plus récente attaque chimique perpétrée en Syrie était en fait une mise en scène. Il s'agit d'un chercheur qui s'appelle Théodore Postol. Vous trouverez la thèse et les déclarations de Théodore Postol dans le International Business Times. Ça a été également repris par Yahoo News. Et finalement, sur le site l'actualité.com, Harlem sans bourgeoise, le quartier new-yorkais est en pleine transformation. C'est un portrait de ce quartier connu sur toute la planète, mais un quartier qui change à vitesse grand V actuellement. Tours de condos, cafés et restos branchés. Le ghetto noir de New York est en pleine transformation, écrit l'actualité, mais cette renaissance ne se fait pas sans heurts. Donc, un article à lire sur le portail l'actualité.com. Voilà qui complète vos infos de la revue de presse internationale pour les 21 et 22 avril. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans un instant avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute du débrief des vendredis 21 et samedi 22 avril. Nous entamons à présent la revue de presse nationale. Immobilier, l'Ontario imposera une taxe aux acheteurs étrangers. C'est une nouvelle qui paraît dans la presse canadienne. La presse canadienne a appris que le gouvernement de l'Ontario imposera une taxe de 15% sur les achats immobiliers des étrangers non résidents. Cette taxe s'inscrira dans une série très attendue de nouvelles mesures sur l'immobilier qui seront dévoilés prochainement et qui visent à ralentir le marché dans la grande région de Toronto, où le prix moyen des maisons isolées est monté à 1,2 million de dollars le mois dernier, une hausse de 33% comparativement à l'année précédente. La première ministre Kathleen Wynne et le ministre des Finances Charles Souza ont indiqué que des mesures cibleront les spéculateurs, créeront plus d'offres de logements, s'attaqueront à l'abordabilité des loyers et se pencheront sur les pratiques des agents immobiliers. On poursuit cette revue de presse nationale avec une information qui paraît dans le portail de Radio-Canada. Donald Trump ranime les divergences des conservateurs sur la gestion de l'offre. C'est une nouvelle qui est publiée par Radio-Canada. Les déclarations de Donald Trump sur la gestion de l'offre dans le secteur laitier au Canada ont remis en lumière les divergences de vues entre les candidats à la direction du Parti conservateur dans ce dossier. Maxime Bernier, candidat libertarien dans cette course, a salué la déclaration du président américain. Le député de Beauce a soutenu que les Canadiens souffrent davantage encore que les Américains de la gestion de l'offre et il a promis que s'il devenait premier ministre, il abolirait ce régime qu'il assimile à un cartel. L'article de Radio-Canada rappelle que dans un discours au Wisconsin récemment, le président américain Donald Trump avait promis de revoir les accords commerciaux avec le Canada, qu'il a notamment qualifié d'injuste envers les producteurs de lait américains. Sur son fil Twitter, Maxime Bernier a rapidement écrit que Donald Trump avait raison de dire que la gestion de l'offre est injuste. Le député de Beauce a d'ailleurs écrit une longue lettre au président américain publiée il y a quelques jours par le quotidien The Globe and Mail. Il propose à Donald Trump d'éliminer la gestion de l'offre en échange de l'abandon des mesures protectionnistes contre le bois d'œuvre canadien, tout aussi injuste selon lui. La gestion de l'offre suscite depuis toujours un malaise chez les conservateurs, rappelle cet article de Radio-Canada. Les conservateurs voient dans la gestion de l'offre une ingérence de l'État dans le libre marché, mais ils savent aussi que leur important électorat rural tient mordicus à cette gestion de l'offre, notamment au Québec où l'industrie laitière est très importante. Ce qui n'a pas empêché le député de Beauce de devenir le seul candidat dans la course à la succession de Stephen Harper à s'opposer avec vigueur à ce régime de l'offre. Le député du comté voisin, Stephen Blaney, aussi candidat à la succession de Stephen Harper au Parti conservateur, a pris la voie inverse. Réagissant à la déclaration erronée, selon lui, de Donald Trump, Stephen Blaney a demandé au premier ministre Justin Trudeau d'indiquer clairement à Washington que la gestion de l'offre n'est pas sur la table pour la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, ou si vous préférez le NAFTA. Le lait canadien ne bénéficie d'aucune subvention spécifique, rappelle cet article de Radio-Canada, alors que le gouvernement américain, lui, verse 990 milliards de dollars à l'ensemble du secteur agricole, dont des centaines de millions en subventions directes chaque année au secteur laitier. Donc un article à consulter sur le portail de Radio-Canada. Le directeur parlementaire du budget s'inquiète d'une politisation de son poste. C'est un article que signe la correspondante du journal Le Devoir, Hélène Buzetti, à Ottawa. Il voulait le vérifier et la vérification ne le rassure pas du tout. L'actuel directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette, a découvert qu'il sera le seul agent, en principe indépendant, du Parlement canadien qui devra faire approuver son plan de travail par des politiciens si les changements envisagés par Ottawa sont adoptés. Jean-Denis Fréchette s'inquiète d'une politisation de son poste. Instauré par les conservateurs, le directeur parlementaire du budget, le DPB, effectue des analyses sur l'impact financier des décisions politiques prises par le gouvernement fédéral. Dans son récent projet de loi budgétaire, le gouvernement de Justin Trudeau a apporté des modifications au poste pour en faire un agent du Parlement nommé à titre inamovible pour 7 ans. Mais il instaure aussi, ce projet, l'obligation pour le DPB de faire approuver par les présidents de la Chambre des communes et du Sénat son plan de travail annuel. Contrats fédéraux, Ottawa veut des dénonciations. C'est un article que publie le journal La Presse sous la plume du journaliste Maxime Bergeron. Alors qu'Ottawa prévoit investir 120 milliards de dollars en infrastructures au cours de la prochaine décennie, le gouvernement fédéral a lancé jeudi une nouvelle ligne téléphonique pour encourager la dénonciation anonyme des cas de malversation dans l'attribution des contrats publics. Ce nouvel outil sera piloté par le Bureau de la concurrence avec la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada et de Services publics et approvisionnement Canada. Certains employés de ces agences seront réaffectés à cette ligne téléphonique, mais aucune nouvelle ressource financière n'y sera consacrée. Nous ne faisons pas cela parce que nous avons vu une hausse des pratiques anticoncurrentielles, mais plutôt en raison des investissements historiques que fait le gouvernement du Canada dans les infrastructures d'un bout à l'autre du pays, a expliqué Pierre-Yves Gay, sous-commissaire adjoint de la concurrence, pendant une conférence de presse il y a quelques jours à Ottawa. Ottawa espère stimuler la dénonciation de toute pratique commerciale contraire à l'éthique dans le cadre de l'attribution de contrats fédéraux, indique La Presse dans cet article. Le gouvernement cible en particulier le trucage des offres, la fixation des prix, le versement de pots de vin, les conflits d'intérêts non divulgués et les manœuvres contractuelles frauduleuses. Enfant exclu d'un vol aérien, le ministre Garneau réitère qu'il présentera une loi sur les droits des passagers. C'est un article qui paraît dans le fil de la presse canadienne. Dans la foulée d'une nouvelle controverse sur les vols d'avions surréservés, ou si vous préférez surbookés, le ministre fédéral des Transports Marc Garneau a réitéré mardi qu'il présenterait plus tard au printemps un projet de loi sur les droits des passagers. Interrogé sur le cas d'un enfant de 10 ans de l'île du Prince-Édouard qui a été exclu d'un vol d'Air Canada pour cause de surréservation, le ministre Garneau a assuré qu'une déclaration des droits des passagers serait en place d'ici 2018. Le ministre n'a pas donné de précision sur les mesures qui seront incluses dans cette déclaration des droits des passagers, une idée qu'il avait déjà évoquée au mois de novembre. Le ministre Garneau a toutefois affirmé que cette déclaration tiendra compte des situations où une compensation serait nécessaire, ajoutant que cette compensation sera équitable et qu'elle reconnaîtra les droits des passagers tout en restant pratique pour les transporteurs aériens. Bill Morneau déplorera le décret Buy American, Hire American lors du prochain sommet du G20. Le ministre canadien des Finances, Bill Morneau, a l'intention de profiter de la rencontre ministérielle des pays du G20 cette semaine à Washington pour rappeler que tout décret Buy American, Hire American du président américain Donald Trump irait à l'encontre des intérêts commerciaux du Canada. Selon des hauts fonctionnaires canadiens qui ont rencontré la presse il y a quelques jours, le décret présidentiel acheté américain, embauché américain, qui devait être signé cette semaine, serait contraire aux provisions de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, provision qui protège le Canada contre les mesures protectionnistes. Le transporteur WestJet veut offrir un nouveau service à très bas tarif, un autre article qui paraît dans le fil de la presse canadienne. WestJet annonce son intention de lancer à la fin de l'année 2017 un nouveau transporteur aérien à très bas tarif au Canada. La compagnie basée à Calgary précise que le projet est conditionnel à l'accord de ses pilotes et aux approbations réglementaires. La flotte initiale de ce projet compterait environ 10 avions, des Boeing 737-800 à haute densité. WestJet promet d'offrir aux Canadiens des options de voyage à des tarifs encore plus réduits associés à un service à bord minimal. Le cofondateur de WestJet a indiqué qu'il s'attend à ce que le lancement de ce nouveau transporteur à très bas tarif permette d'accroître les possibilités d'expansion de la compagnie et de lui ouvrir de nouveaux marchés. On signale la disparition d'un acteur au Québec, Paul Hébert, monument de théâtre et de télé. Le chroniqueur de la presse Richard Terrien en fait la mention et plusieurs autres médias au Québec et au Canada français. Un de nos grands comédiens vient de disparaître, Paul Hébert, à l'âge de 92 ans. Une voix reconnaissable entre toutes, écrit Richard Terrien. Un visage très présent à la télévision à partir des des séries 14 rue de Galais au milieu des années 1950 à Radio-Canada jusqu'à la série Nos étés beaucoup plus récente dans les années 2000 à TVA. La contribution de cet homme au théâtre est colossale, indique Richard Terrien dans sa chronique. Paul Hébert a aussi beaucoup joué au grand écran, notamment dans La vie heureuse de Léopold Z du cinéaste Gilles Carle. Et finalement, je tiens à vous signaler un papier qui paraît dans le portail de CBC News il y a quelques jours à propos des pensionnats amérindiens dont la société civile apprend un peu l'existence c'est au cours des dernières années. De plus en plus d'informations filtrent sur ces pensionnats qui, d'un bout à l'autre du pays, ont gâché l'enfance de dizaines de milliers d'Amérindiens. Alors, c'est un papier qui s'intitule « Was there smoke? One man asks why he didn't know about residential schools ». C'est un témoignage d'un Ontarien, Ralph Paulson, sur le portail de CBC, un témoignage de son enfance. Il a grandi tout près d'une communauté amérindienne, mais il ignorait, dit-il, ce qui se passait dans cette communauté. Il ne savait pas que des enfants étaient kidnappés littéralement par les autorités pour être envoyés dans des pensionnats, enlevés à leurs parents. De façon injuste et injustifiée. Il fait, si vous voulez, la confession de son sentiment de culpabilité dans cet article qui est fort éclairant. Il parle un peu en son nom personnel et c'est très touchant. Donc, je vous recommande cet article pour terminer cette revue de presse nationale. C'est dans le portail de CBC sur les pensionnats amérindiens. Ici se conclut la revue de presse nationale. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Après les revues de presse internationales et nationales, voici la rubrique francophonie pour les 21 et 22 avril. L'ACFO de London Sarnia ferme ses bureaux mais demeure en vie. C'est le titre d'un article qui paraît sur le portail de Radio-Canada. L'Association canadienne-française de l'Ontario de London Sarnia, l'ACFO-LS, doit fermer ses bureaux en raison de ses difficultés financières, apprend-on dans cet article de Radio-Canada. L'organisme à but non lucratif continue toutefois d'exister et poursuit ses efforts de redressement. L'ACFO ne ferme pas, nous allons continuer à être dans la communauté, a tenu à souligner Nicole Buteau, la directrice générale intérimaire bénévole de l'ACFO de London Sarnia, afin de faire taire les rumeurs. La nouvelle directrice intérimaire a ajouté que son organisation a dû toutefois prendre la décision de cesser ses activités à Sarnia le 30 mars afin de réduire rapidement ses coûts de fonctionnement. Le bureau de London mettra la clé sous la porte à la fin du mois d'avril. En janvier, Radio-Canada avait révélé que l'ACFO de London Sarnia éprouvait de graves difficultés financières et faisait notamment face à une dette de près de 300 000 $ auprès de l'Agence du revenu du Canada et avait perdu la majeure partie de ses subventions gouvernementales. Le 16 février, une assemblée générale extraordinaire, particulièrement houleuse, avait permis aux membres de constater l'ampleur des problèmes lors de la présentation des états financiers. Le comptable Roch Brazeau avait également souligné que sa firme avait indiqué à plusieurs reprises depuis 2012 à la direction générale et au conseil d'administration qu'il y avait des problèmes dans la gestion de l'organisme et que la dette augmentait. Les membres avaient alors approuvé une proposition visant à demander de l'aide à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO. Une trentaine de personnes avaient assisté à cette Assemblée générale extraordinaire de l'ACFO London Sarnia. Depuis cette réunion du mois de février, le directeur général Gaston Mabaya a quitté ses fonctions. Selon Mme Buteau, la nouvelle directrice intérimaire, il a volontairement pris sa retraite. Ancien employé, Mme Buteau a repris bénévolement les rênes de l'organisme afin de faciliter la transition. Mon objectif est de trouver une solution positive à ce problème et j'aimerais que l'ACFO continue d'exister, a-t-elle dit. L'ACFO de London Sarnia est par ailleurs entré en contact avec l'AFO et travaille avec son directeur général, Peter Aminuk, pour trouver des solutions pour régler le problème de la dette et tenter de redresser la situation financière de l'organisme. L'association a également déposé une demande auprès de l'Agence du revenu du Canada concernant les retraits à la source non payés, mais n'a pas encore reçu de réponse. Alors voilà sur les dernières nouvelles sur la situation de l'ACFO de London Sarnia. Le conseil d'administration doit se réunir dans 2 semaines afin de discuter des prochains mois et une mise à jour sera faite à la table de concertation des organismes francophones de la région au cours du mois de mai. Donc pour avoir tous les détails sur cette nouvelle, l'ACFO de London Sarnia ferme ses bureaux mais reste en vie. C'est votre nouvelle francophone du jour. Alors voilà, on referme la rubrique francophonie pour les 21 et 22 avril dans cette édition de l'émission Le Débrief. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
J'entends souvent cette voix, celle qui habite en toi. Éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant que tu ne te souviens plus comment.
C'était l'auteur-compositrice-interprète Claude Pelgag dans le débrief. Il est presque 17h, il reste un tout petit quart d'heure. Alexis Gagnon en votre compagnie dans l'émission Le Débrief. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On jette un petit regard à la météo. On a actuellement 14 degrés au centre-ville de Victoria. Ça va descendre à 8 degrés en cours de soirée et ça se couvre demain, samedi 22 avril, nous prédit Environnement Canada. Un maximum de 13 degrés demain avec une probabilité d'averse de 60%. Ça demeure maussade dimanche 23 avril avec un maximum de 12 et une probabilité d'averse assez élevée tout de même à 70%. Donc voilà pour le petit topo météo. On va se croiser les doigts pour pas avoir trop d'averses au cours du week-end. En attendant, on écoute en musique l'artiste Pierre-Hervé Goulet, une pièce intitulée « Une chose à la fois ». Au retour, c'est Gisèle Sanson qu'on reçoit dans le studio ici à CILS FM sur Langley pour nous parler de l'Assemblée générale annuelle de l'Association historique francophone de Victoria. Gisèle Sanson est avec nous dans quelques minutes. Restez à l'écoute.
Faut faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Une chose à la fois. Chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait des choses à la fois. Une chose à la fois. C'est fou comme y'a rien qui marche quand on court après le temps. Quand on court après le temps, y'a rien qui marche. C'est évident. C'est fou quand y'a tant d'affaires à faire et à refaire en même temps. Comme le disait mon père, tant pas faire en si peu de temps. Une chose à la fois. Il faut pas péter sa coche, faut pas péter sa coche. Contre le temps qui change, c'est pas comme une fille en dépense. Il met si bon la bonne avance que de tester sa patience. L'impatience est une rivière qui pourrait t'emporter. Si courant prend son air, il faut savoir le contrôler. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois qu'on fait des choses à la fois. Une chose à la fois. À la fois, une chose à la fois. Et c'est si dur de garder son calme. C'est si dur de garder son calme. J'ai tant de choses à faire, un tsunami dans mon oreille. Comment veux-tu que je prenne mon temps? C'est quand on se scie en deux qu'on se fait fendre en quatre. M'a dit l'arbre ambitieux qui a fini par s'abattre. Le temps est un libertin qui pousse en liberté. Je me répète en vain que je devrais m'en douter. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait des choses à la fois. Une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait des choses à la fois.
Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est le moment de l'interview du jour. J'accueille en studio une pionnière de CILS, Gisèle Sanson, qui vient nous parler de l'Assemblée générale de l'Association historique francophone de Victoria qui se tient dans quelques jours, le 22 avril. Bonjour Gisèle.
Bonjour Alexis.
Alors, qu'est-ce qui figure à l'ordre du jour de cette Assemblée générale de l'Association historique francophone de Victoria le samedi 22 avril?
Alors, quand les administrateurs d'une association comme ça se rencontrent, ils ont déjà un ordre du jour fixé.
Oui.
C'est selon les règlements.
Oui.
Alors, c'est quelque chose d'assez traditionnel. On passe des comme la parole à la présidence. Bon, d'abord, il faut un président d'assemblée. Faut l'avoir trouvé, cette personne-là, qui va diriger. Ensuite, faut approuver cet ordre du jour qu'on a. Alors, c'est un rituel, tu sais, on passe à travers ça. Et chacun des membres qui sont sur le conseil à ce moment-ci de l'année, qui ont terminé, fait un compte-rendu. Donc, oui. J'aurai un compte-rendu à faire, évidemment, à un ordre précis qui sera le rapport de la responsable des archives.
Alors, en deux mots, que dira le rapport de la responsable des archives?
Elle tentera d'expliquer ce qui s'est passé dans les archives, parce que les archives sont situées à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, dans un local précis. Et est-ce qu'on a fait avancer tout ce département des archives? Je ne sais pas trop. Parce qu'on a été occupé aussi dans ce domaine de l'archivage à rénover et à présenter à nouveau un feuillet touristique, une visite, par exemple, pour ceux qui arrivent ici, une visite autoguidée. Avec un grand dépliant accordéon avec plusieurs panneaux qui signifient le travail qui a été fait, ce qui a été marqué comme des faits français ici à Victoria. Et ça, c'est évident que pour la présidente et moi, le dévoilement du feuillet touristique est très important cette année. Alors, je ne l'ai pas encore en main. Je dois aller le chercher vendredi, puisque nous en aurons besoin samedi. Alors, espérons que tout est correct.
C'est une version revue et améliorée du feuillet qu'on connaissait?
Oui, et on a ajouté un peu plus dans l'est de Victoria, puis un peu plus dans l'ouest de Victoria. On a essayé d'ajouter à cet accordéon un ou deux panneaux de plus.
Alors, on a dans ce feuillet vraiment un portrait historique du fait français à Victoria.
C'est ça, oui. Ça s'appelle « Sur les traces de nos ancêtres ». Et ça, pour nous, c'est une mission d'éducation, de transmission.
Oui.
Alors, évidemment, on va beaucoup l'expliquer là, dans les mois qui viennent, comme au Festival de la francophonie. Donc, les gens qui sont sur le conseil d'administration vont être chargés de s'installer pour que ce pamphlet-là, ou feuillet, ou c'est brochure, ça dépend, dépliant, qui puisse jouer son rôle comme il le doit. Alors, on va faire tout ce qu'on peut pour l'expliquer et que les gens deviennent des multiplicateurs de cette transmission historique-là.
Est-ce qu'on va en trouver des copies ici sur la rue Langley, au bureau de la Société francophone de Victoria?
Oui, on devrait en avoir 5 000 copies.
Ah oui.
Alors, on veut vraiment avoir des points de distribution et là, on va faire appel aux gens qui sont volontaires pour avoir une idée où on les distribue. Et puis, que ce soit dans des bed and breakfast, que ce soit surtout au centre d'information touristique, si on peut faire une entente. Alors, on verra bien. Mais ça, c'est important. Et la deuxième chose qui est importante cette année, c'est on a eu des argents qui viennent de Emploi et Développement social Canada.
D'accord.
Et on a travaillé fort pour faire ce projet-là. Ça s'adresse aux 55 ans et plus. Et on veut bien connaître tous ces gens qui ont 55 ans et plus, qui font partie de notre association ou de notre société francophone de Victoria. Parce que souvent, on est toujours entre nous, les mêmes personnes qu'on connaît à peu près. Mais il faut aller chercher, découvrir les gens,
les amener.
Oui. Alors, nous allons travailler un projet qui s'appelle « Souvenance, reconnaissance ». Et « Souvenance », c'est qu'il va y avoir des ateliers. Et les ateliers vont permettre aux gens de se souvenir des choses du passé depuis qu'ils sont ici.
Oui.
Et ils vont ramener ça dans le présent, ils vont échanger là-dessus et ça devra passer à l'étape reconnaissance dans le sens qu'est-ce qu'on fait pour ressouligner ces faits-là et qu'on trouve dans nos feuillets, dans notre feuillet touristique aussi. Alors, on veut vraiment faire bouillir le plat du passé qui est bon à respirer au présent aussi.
Comme du bon pain.
Absolument.
Alors, vous allez au-devant des membres de la communauté francophone qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui n'auraient pas eu la chance d'échanger là, plus de quelques minutes avec vous. Donc, approfondir les contacts, en réaliser de nouveaux contacts aussi.
Oui, oui. Ça va être, c'est un grand défi.
Et c'est un défi qui s'échelonne sur combien de mois? Vous avez cette subvention seulement pour l'été qui s'annonce ou pour l'année entière? Ou?
C'est jusqu'en mars 2018. Mais nous l'avons divisé par trimestre. Alors, à l'été, on va se reposer, nous aussi.
Oui.
Et on va reprendre en septembre. Alors, dans le vitrine communautaire hein, de notre... Ça, c'est un outil archivistique, le réverbère. Tout ce qui est dedans, on le garde.
Oui,
C'est le format papier, c'est le meilleur pour conserver tout ce qui s'est passé. Alors, dans le réverbère, justement, d'avril, tout le monde a lu la vitrine communautaire.
Oui, oui, bien sûr.
2017, année de l'histoire. Alors, le conseil d'administration se demandait, on devrait avoir une devise ou un, comment qu'on appelle ça, là, un slogan, où on y a bien des mots pour dire ce genre de petites phrases-là qu'on cherche. Et la phrase est arrivée et c'est l'AHFV est l'encre ANCRE des actions historiques et les tomes 1 et 2 sont l'encre ENCRE de la souvenance. Et c'est Jacques Vallée qui a sorti cette phrase-là.
Très bien.
Alors, oui, parce qu'on joue avec le mot « encre ».
Oui.
Et on joue avec des actions historiques qu'on a accrochées à quelque part. Et puis, tout ce qui est écrit maintenant est ce livre qui va sortir à la fin de l'année, à peu près fin novembre, tome 2.
Tome
Présence
2.
Francophone à Victoria, 1987 à 2017.
À la demande générale.
Ben là, on pense.
Oui.
Comme le feuillet touristique a été à la demande du public.
Oui, oui, oui.
Alors, il faut écouter la communauté.
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce volume, Présence francophone à Victoria, volume 1, ce volume 1 avait paru au début des années 2000, je crois. Est-ce que c'est à peu près exact?
En 1987.
87, oui, c'est
oui,
ça.
Oui, et il avait été traduit en anglais en 1991. Oui.
Et ce volume-là couvrait la période du milieu du 19e siècle jusqu'à 1987, à peu près.
Oui, 1843.
Oui.
Et ça arrivait jusqu'à 1987.
Et là, l'ambition des auteurs, c'était de couvrir les 30 dernières années.
Il fallait le faire maintenant ou on ne le verra peut-être plus jamais après. Alors, il fallait prendre un 30 ans. Ça se prend bien, un 30 ans. Et là, c'est historique dans le sens de l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à nos associations comme histoire depuis 1987? Il y en a qui ont fermé, il y en a qui se sont ajoutés. Mm-hmm. L'immigration est arrivée, a transformé le portrait. Mm-hmm. On n'est plus sur le perron de l'église.
On est un
peu partout dans la communauté. La laïcisation est arrivée. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Et il y a des associations qui ont vécu sur le bénévolat tout le temps. Ils ne sont pas tombés. C'est le cas de l'association historique. Ça vit sur le bénévolat.
Ouais.
Et je ne pense que ça ne pourra plus aller seulement sur le bénévolat maintenant. Il faudra passer par la même étape que les autres ont passé pour avoir une permanence. Sinon, je ne pense pas qu'elle va traverser un autre 30 ans. Alors, la relève est difficile aussi.
Oui, il faut la trouver, il faut la motiver.
Mm-hmm.
Et quand pourra-t-on feuilleter le volume 2 de Présence francophone à Victoria?
Alors, c'est fin novembre. Le maître d'œuvre, qui est Jacques Vallée, nous dit que fin novembre, on devrait l'avoir dans ce temps-là et décembre pour quoi? L'offrir en cadeau aux gens qui passeront le jour de l'an ou quoi, ouais.
Et c'est un ouvrage qui fera à peu près combien de pages? Est-ce qu'on peut déjà pronostiquer à peu près?
Oui, c'est toujours dans le 250-300 pages, j'imagine. Oui. Parce qu'on est une trentaine à avoir écrit. Et la partie française et la partie anglaise se mènent en même temps.
D'accord.
Alors donc, quand on va se rencontrer samedi, on va d'abord donner tout ce qu'il faut comme énergie pour le feuillet touristique.
Oui.
On va parler du projet actuel qui est d'aller chercher des gens pour nous aider à continuer tout ce qu'on veut mener en fait d'histoire. Et on reconnaîtra à la fin de l'année que plein de monde se sont assis pour écrire une partie importante de notre histoire à leur façon. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui va servir, évidemment, pour ceux qui cherchent l'histoire francophone, mais ils vont trouver le développement des associations dans notre Grand Victoria. Oui,
d'accord.
C'est bon.
Alors, un ordre du jour quand même bien garni pour cette AGA du 22 avril, samedi 22 avril,
oui.
AGA de l'Association historique francophone de Victoria, Gisèle Sanson.
Oui.
Encore un mot sur cette rencontre. Est-ce que...
Oui, ben il va y avoir des postes d'officiers qui vont être remplis, là, tu sais, parce qu'on applique les nouveaux règlements et statuts de l'association.
Oui.
Alors donc, la présidente reste en place pour une autre année.
Est-ce qu'on peut la nommer?
Oui, c'est Jocelyne Fontaine, très précieuse pour que ça fonctionne. Et là, il va y avoir vice-président à trouver ou vice-présidente. Et il faudra trouver trésorier, trésorière. Et il y a des conseillers qui restent et d'autres qui se retirent. Donc, il faut trouver 4 ou 5 personnes de plus là, qui veulent s'impliquer.
Donc, si on fait partie de la société civile, on s'intéresse à l'histoire un petit peu. Est-ce qu'on peut se présenter à l'AGA sans invitation? Et puis,
c'est sûr. Même en place, quand un poste n'est pas complet, on dit, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont intéressés? Oui.
D'accord.
Oui.
Alors, ce serait peut-être pertinent de donner l'adresse et l'heure de la réunion du 22
oui.
avril?
Oui, ben ça a lieu là à la paroisse, la salle paroissiale. C'est sur la rue Richemont, entre Fairfield et Liliane. Et c'est au 309-311. Là, vous allez voir la petite église et la salle paroissiale va avoir les portes ouvertes. Donc, bienvenue et vous pouvez arriver vers 1h30 parce qu'il va y avoir déjà beaucoup de mouvements à l'intérieur et nous donner un coup de main peut-être pour les chaises ici et là, hein, parce qu'on a besoin de...
Oui, ça donne une indication sur l'engagement des gens. Quand ils donnent un bon coup de main,
mais oui.
c'est des bons membres en perspective.
Bien sûr.
Gisèle Sanson, un grand merci pour ces infos entourant l'AGA de l'Association historique francophone de Victoria qui se réunit le 22 avril.
Oui, à 2h, on commence.
Merci Gisèle, à bientôt.
Merci pour ton invitation.
Bonjour, je m'appelle Rebecca du groupe de médias au 19e Parlement Jeunesse. Vous écoutez présentement CILS-FM 107.9.
Prête-moi ta plume pour retrouver la joie. Prête-moi ta folie pour supprimer. J'éviterai le matin, je dois aller travailler. Je n'ai rien, je n'ai rien. Prête-moi l'illusion d'avoir bien réussi sur cette théorie pour gérer les envies. Prête-moi la passion que j'ai fait mon chemin et j'irai travailler. Tout va bien, tout va bien. Mon 9 à 5 est bien stable, toujours on me voit aimable. Mais derrière mes verres, je fantasme la galère. We'll be right back.
Vous écoutez CLS FM, l'unique radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CLS FM.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Découvrez la vie culturelle de Victoria.
Discover the cultural life of Victoria. En français.
And in English.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Rendez-vous sur CLS FM et CFUville de Radio de Victoria. Rendez-vous, c'est l'émission en français et en anglais qui vous amène à la rencontre de ceux qui incarnent la vie de Victoria. Je m'appelle Adrien Blanc et pendant l'heure qui vient, je vais vous raconter